C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de Monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Déjà, j'espère que tu vas bien.
Mais ça va très bien, je te remercie.
Voilà. Ensuite, j'espère que tu as passé un bon week-end.
Excellent, il faisait magnifique. Il faisait un temps superbe.
Il a fait très beau. Et ensuite, j'espère que tu as de belles actualités à nous partager
j'ai
ce
des
matin.
Trucs, j'ai des trucs intéressants. Alors, belles, je sais pas. J'ai des trucs un peu flippants, si tu permets. Je vais commencer avec cette news qui nous tombe du côté de Meta. Voilà, après 10 ans, un peu plus de 10 ans même, de croissance frénétique, eh bien, le groupe Meta prévoit de réduire ses dépenses. Voilà, ça va serrer la ceinture du côté du groupe Meta. Vous le savez, peut-être, chaque semaine, Meta organise une session de questions-réponses avec Mark Zuckerberg et un certain nombre de collaborateurs du groupe, où ils peuvent poser leurs questions directement aux dirigeants. Et à l'occasion de ce dernier point d'équipe, eh bien, Mark Zuckerberg a annoncé son intention de geler les embauches et de restructurer certaines divisions au sein de l'entreprise. Pourquoi ? C'est jamais une très bonne news, effectivement. Ce qui se passe, c'est que Meta est aux prises, on va dire, avec évidemment l'économie mondiale qui actuellement est plutôt dans une forme de morosité, ainsi aussi que les menaces concurrentielles. Vous savez qui ? TikTok notamment. Et puis réglementaire. Tout le monde veut la peau de Meta en ce moment. Rappelez-vous, en juillet dernier, déjà, Mark Zuckerberg avait prévenu ou averti les employés de bien accrocher leur ceinture pendant une période qu'il annonçait comme intense de 18 à 24 mois. Et il avait aussi demandé aux managers de commencer à identifier les salariés les moins performants. Là, ça commence à puer.
La liste.
Faites une liste. Et du coup, que se passe-t-il ? Eh bien, effectivement, Meta montre des signes de ralentissement financier important. Depuis 2022, c'est pas bon côté chiffres de Meta. Un exemple, au cours de son dernier trimestre, donc là, T3. Meta a annoncé une baisse de 1% de ses revenus trimestriels par rapport au même trimestre de l'année précédente. C'est la première fois. C'est la première fois que Meta perd de la croissance. Quand tu es dans un groupe qui investit non-stop, tu commences à tirer des enseignements. Et sans doute aussi que les analystes de chez Meta voient peut-être une asymptote se créer, en tout cas une baisse de la croissance intervenir. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est en face les décisions qui ont été prises par Mark Zuckerberg lui-même de réorienter un certain nombre de la force de frappe, la force financière du groupe Meta vers le métaverse, qui aujourd'hui, on le sait, est littéralement un gouffre pour l'entreprise. Donc compliqué, session compliquée en ce moment pour Meta, affaire à suivre, on vous dira peut-être, est-ce que ça sent le sapin, est-ce que ça commence à se compliquer.
Bon, il y a une bonne nouvelle derrière tout ça, donc le métaverse gouffre, ça, c'est un truc de visionnaire. Et par contre, les lunettes Ray-Ban X Meta sont en vente et j'ai vu des affiches dans le métro.
Oh, bien sûr.
Donc ce fameux truc là qui va mettre 10 ans avant d'être peaufiné, comme il l'avait annoncé, ça va peut-être faire rentrer quelques billes dans.
Ah, j'y crois pas.
Moi non plus.
Quelques centimes.
Moi j'ai une news Meta aussi qui vient un peu, on va dire, peut-être conforter tout ça. Un changement d'angle. Alors c'est pas vraiment un changement d'angle puisque ça avait déjà été évoqué, mais voilà, ça s'interprète. L'un des gros objectifs de l'année pour Meta était d'inciter ses utilisateurs à passer plus de temps sur ses plateformes. Et tu vas le voir, ça reste quand même assez ambivalent avec la volonté de générer plus d'engagement, qui était aussi un objectif. Mais quand tu veux que les gens viennent sur Facebook et sur Insta, où est-ce que tu mets l'engagement ? Pour parvenir à tout ça, la plateforme va mettre en place de nouveaux outils, en tout cas c'est en test, des outils d'interconnexion des plateformes. Donc il y en a deux, une interface de commutation de profil qui te permet de switcher entre Insta et Facebook, ça existe plus ou moins déjà, qui indiquerait en plus le nombre de notifications. Donc tu aurais comme une grosse barre de notifications qui te permettrait de te dire vous avez deux notifs sur Insta, basculez. Donc expliquer encore plus pourquoi y aller. Les notifications c'est bien d'ailleurs, mais récemment certains utilisateurs n'avaient plus besoin de switcher, ça a été remarqué par Meta, parce qu'en fait quand tu connais le contenu de la notif, t'as pas vraiment envie de switcher. Donc c'est un truc qui est en test mais qui est déjà foireux. Dommage. Et puis le fameux Facebook Facebook Connect, hein, qui sert aujourd'hui à se connecter sur plein de sites web à partir de Facebook, va être également utilisé pour proposer à des gens de s'inscrire à Instagram rapidement. Alors, comme le dit Facebook, bah, c'est une manière de, je cite, faire découvrir Instagram à des gens qui ne connaîtraient pas encore. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher de l'abonné, on va dire peut-être dans les populations plus âgées qui sont sur Facebook, avec le Facebook Connect qui permettrait de créer un compte très très rapidement. Donc, c'est deux modules qui vont permettre de créer plus d'interactions entre les deux plateformes, de connecter et d'avoir des gens qui utilisent plus les deux plateformes. Ça se projette aussi sur WhatsApp et Oculus dans les mois, années à venir, si jamais ça, les tests réussissent. Mais ce que je vois là, c'est qu'on cherchait avant à faire de l'engagement sur les plateformes. Et maintenant, l'engagement, ça va plutôt être de passer d'une plateforme à l'autre. Donc, ça n'a plus la même valeur.
Ouais, intéressant. Bah, voilà. C'est vrai que du côté de...
On fait survivre les plateformes.
C'est vrai que du côté d'Instagram, ils se disent, on a encore un réservoir d'audience disponible du côté de Facebook. Essayons vite de les faire basculer du côté d'Instagram avant qu'ils partent du côté de TikTok.
Ouais, c'est clair.
Donc je comprends l'idée. Ouais.
Voilà, mais en tout cas, voilà, ces outils sont un peu flous, je trouve. Mais en tout cas, ça montre que c'est un peu instable côté Facebook.
Allez, on va parler de Twitter. Twitter qui veut lui aussi faire de la vidéo 9/16. Voilà. Sans vouloir cloner TikTok pour autant, eh bien, Twitter souhaite intégrer un peu de la hype autour des vidéos verticales dans son feed. À ce titre, eh bien, la plateforme vient d'annoncer deux nouvelles mises à jour qui sont conçues pour améliorer l'expérience vidéo de Twitter, qui objectivement aujourd'hui est plutôt nullos, hein, et d'inciter, l'objectif étant d'inciter aussi les gens à passer évidemment plus de temps dans l'application. On le sait, hein, vous avez compris, le temps de cerveau disponible, bah, c'est un peu la guerre actuellement, hein, des plateformes. Et la vidéo, pour ça, bah, c'est un super levier. Twitter, du coup, ajoute une nouvelle option qui étendra automatiquement les vidéos tweetées en mode plein écran en un seul clic. En gros, aujourd'hui, dans mon feed, je vais continuer à retrouver des vidéos qui sont format carré, et puis en faisant un
des
clic...
Des pièces jointes.
Voilà, des petites vidéos carrées qui sont croppées, en fait. Et quand je vais cliquer dessus, boum, je vais basculer dans un format 9/16. Voilà, bon, assez classique. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'une fois que la vidéo, elle est lancée en plein écran, eh bien, Twitter souhaite aussi simplifier la découverte de vidéos en nous faisant basculer dans une sorte de flux vidéo vertical, qui là est très proche de ce qu'on trouve chez TikTok, mais aussi de Facebook Watch. Parce que moi, en fait, ce que propose Twitter, je trouve que ça ressemble à Facebook Watch. Quand vous êtes aujourd'hui, pour ceux qui vont encore sur Facebook, hein, quand vous êtes sur Facebook, vous tombez sur une vidéo au milieu de votre feed, vous cliquez dessus, il va vous la basculer en format 9/16, et ensuite, vous avez basculé dans le feed Facebook Watch, où vous pouvez enchaîner vidéo sur vidéo. Bah, c'est exactement ce qu'imagine Twitter.
Comme quand tu accèdes à depuis découvrir à un Reels sur Instagram, et après c'est pareil.
Exactement. Et Twitter cherche aussi à mettre davantage l'accent sur le contenu vidéo dans Explore. Explore, c'est cette partie de Twitter qui peut être une des portes d'entrée dans la plateforme, dans laquelle vous pouvez voir qu'est-ce qui est trending, quels sont les sujets du moment, et puis Twitter vous fait un certain nombre de recommandations, de comptes à suivre, etc. Et là, ils souhaitent maintenant avoir un nouvel onglet au cœur de Explore, un onglet vidéo qui s'appelle « Pour vous ». Pour vous, tiens, comme For You, en fait, c'est marrant.
La Pour vous page.
Voilà. Et là, grosse énigme quand même. Hein. Reste à savoir si Twitter sera en mesure, on va dire, de proposer un algorithme de recommandation qui va être pertinent. On le sait aujourd'hui, TikTok est loin devant sur cet algorithme de recommandation. Instagram est en galère pour essayer d'adapter son algorithme à la recommandation par centre d'intérêt. Que va-t-il se passer sur Twitter ? Est-ce que les recommandations vidéo qui vont me faire vont être pertinentes, est-ce que je vais me retrouver avec un contenu qui est complètement hors sujet, ça sera un peu affaire à suivre.
Twitter, le challenger, parce qu'on le rappelle, Instagram a tenté ce move et s'est rendu compte que finalement créer un flux comme ça, ça revenait à modifier profondément tout son algorithme, donc là Twitter tente le coup.
Il tente le coup, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que Twitter aujourd'hui est le sujet de la recommandation, je les trouve pas mauvais sur certains points, par exemple sur les comptes recommandés, ils sont très actifs là-dessus, ils te proposent fréquemment.
C'est assez
quand même
bien analysé.
Et je trouve quand même que ça marche pas mal. Donc j'attends de voir si leur algorithme peut tenir la longueur sur le contenu vidéo 9/16.
Bah, la dernière fois qu'ils ont fait du 9/16,
c'était pas super.
C'est pas resté
là
longtemps.
Tu penses aux stories.
Ouais, les effectivement. Flits, je crois. Moi je vais te parler des moins de 13 ans, figure-toi. On parle souvent du dark social, hein, la partie cachée des réseaux sociaux, et à l'intérieur, bah, il se cache quand même une infime proportion d'utilisateurs illégaux, les moins de 13 ans, puisque on le rappelle, c'est interdit pour les moins de 13 ans normalement d'être présent sur les plateformes. Bah, malgré cette interdiction, les 11 et 12 ans, donc les moins de 13 ans, sont 87% à utiliser régulièrement régulièrement au moins une application sociale. C'est le rapport Born Social 2022 qui vient de sortir. Comme chaque année, il nous offre pas mal de petites stats intéressantes sur les pratiques et habitudes de la génération Born Social, ceux qui sont nés avec les réseaux sociaux. Je vais t'en balancer quelques-unes.
Allez,
et
t'écoute.
Puis vous, derrière, si vous avez envie, vous irez plus loin. Plus 12% de croissance pour Snapchat sur ce secteur moins de 13 ans cette année, avec plus d'un jeune sur deux qui l'utilise régulièrement. Plus 5% pour TikTok. Et là, on a 40% d'utilisation des moins de 13 de TikTok. Donc, c'est assez énorme. Ça, c'est la partie plateforme. YouTube, toujours plateforme numéro 1. Donc, on est quand même beaucoup dans regarder de la vidéo et du cheat code de jeux vidéo, par exemple, ou des séries, des choses comme ça. Sur la partie messagerie, c'est assez intéressant. On est vraiment dans le social plus que dans le SMS. 49% des sondés disent utiliser des applications de messagerie plutôt que les SMS, qui sont en chute de 7%. Donc, on a la messagerie, les SMS, et en troisième position, c'est assez ouf, on a Fortnite et sa messagerie, qui est quasiment à équivalence de SMS.
Donc comme endroit où je contacte mes potes.
Où j'interagis avec mes amis en message privé. Donc là, tu dois avoir 38% sur les SMS et 35% sur Fortnite.
Et Marc, juste un tuyau, il est peut-être là, hein, le métaverse d'ores et déjà. Tu vois, il est peut-être dans Fortnite. Hein.
Il est peut-être déjà sur des publics que tu n'as pas sur tes plateformes. Donc c'est assez intéressant. Ce qu'on voit, hein, ces comptes suivent en moyenne moins de 50 contacts. Ils sont souvent en privé, ils postent en moyenne moins d'une fois par semaine, donc ça reste peu dans l'interaction publique, mais vraiment dark social. Et côté pub, c'est intéressant à parler avec ce que vous avez fait sur l'épisode Gen Z. 70% d'entre eux ne suivent pas de marque sur les réseaux, par contre ils considèrent déjà qu'il y a trop de pubs. Comme les Gen Z, ils savent très très bien les identifier, et y compris savoir ce qu'est un post sponsorisé, etc.
Ouais.
Donc ils sont très au fait qu'on essaye de leur vendre des trucs.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà un aperçu, hein. Il y a plus
de fait. Ok, intéressant, on vous met le lien évidemment en note de cet épisode pour cette étude Born Social si vous voulez aller la consulter. Allez, on va repasser du côté de Meta. Meta qui annonce avoir neutralisé une opération de désinformation menée par la Russie. Je suis tombé sur cet article très intéressant qui explique effectivement ce qui se joue, que la guerre se joue aussi évidemment sur les réseaux. Hein. Quel est l'objectif de la Russie ? Eh bien évidemment, influencer l'opinion sur la guerre en Ukraine, hein, et les élections américaines aussi qui arrivent, en achetant de la publicité ciblée sur Facebook et Instagram. Le dispositif est assez complexe, un vrai dispositif de propagande organisé en un réseau assez impressionnant. Au total, 29 comptes Instagram, 60 clones de sites de presse, je vais y revenir, 1633 comptes privés et 703 pages Facebook impliquées. Donc ça commence à faire vraiment, on va dire, un dispositif tentaculaire. Hein. Comment ça marche ? Eh bien, le réseau russe ciblait principalement l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Ukraine évidemment et le Royaume-Uni. Le fonctionnement est assez primaire finalement. Les Russes ont créé une soixantaine de faux sites de presse. Voilà, en pompant les adresses URL, en faisant des fausses adresses URL, et puis aussi en pompant littéralement tout le design du site et puis en recréant un site miroir en fait. Hein.
Okay.
Et on y retrouve par exemple un faux 20 minutes. Un faux site The Guardian, etc., etc. Et quand tu tombes dessus, c'est assez bluffant, franchement. Il faut être assez aiguisé pour voir que l'URL, c'est pas tout à fait ça, et qu'il y a 2-3 éléments du design qui sont un peu bancals, mais c'est vraiment...
L'utilisateur lambda, il y croit à 80%.
Exactement. Hein. Et ces faux sites publient des centaines d'articles présentant l'Ukraine comme, bah, évidemment, un État corrompu, invitant à l'arrêt des sanctions contre la Russie, etc., etc. Ces faux articles, eh bien, ils sont ensuite relayés via les réseaux sociaux. Classique, Facebook, Instagram, Twitter. Et des sites de pétitions aussi. Ça, c'est assez nouveau dans le dispositif propagandaire. Change.org, par exemple, très utilisé, visiblement, dans ce dispositif. Certains contenus sont même, évidemment, amplifiés par des comptes officiels type ambassade de Russie en Europe ou en Asie. Et bah oui, bah, on n'est pas, quand on est parti, hein, dans le faux. Et du coup, selon Meta, bien aujourd'hui, et ensuite, derrière, amplification aussi à l'aide de campagnes publicitaires.
Bah,
et les propagandistes russes là-dessus auraient dépensé plus de 100 000 dollars en publicité.
La
sur
chaîne
Facebook
est tellement longue qu'ils ont déjà oublié que c'était un faux site à la base.
Voilà, exactement. Donc c'est assez massif et on se rend compte que finalement, les outils mis à disposition, utilisés par. Les organes de propagande russe sont des outils à la portée de tout le monde. Hein. Je veux dire, nous-mêmes, on peut créer un dispositif de ce type en à peu près 2 secondes. Donne-nous 100 000 balles et on va le faire, ta propagande. Et on voit l'impact massif que ça peut avoir. Hein, parce qu'évidemment, quand on parle de plusieurs centaines de faux sites de presse, de comptes qui relaient, etc., etc., bien sûr que ça a un effet tentaculaire avec en ligne en ligne de mire un théorème, hein, il n'y a pas de fumée sans feu, donc une fois que la rumeur est partie, une fois qu'un article est parti sur les réseaux, très difficile de faire machine arrière et de retirer une fausse information.
C'est chaud.
Ouais.
C'est chaud et je vois. Enfin, c'est ultra primaire à la fois, mais par contre, c'est construit tellement loin, c'est-à-dire à la base d'un site web, que c'est vachement plus dur de retracer la fake news. Ok. Bah, moi, j'ai ce genre d'annonce, mais un peu pourrie pour LinkedIn, mais c'est pas grave, je la trouvais intéressante. Après les reverse engineers qu'on connaît sur Instagram qui découvrent les nouvelles fonctionnalités, j'ai découvert des enquêteurs LinkedIn qui tracent des trucs qui se passent depuis plusieurs années. Alors là, c'est des chercheurs du MIT et de l'école de Stanford et Harvard qui ont découvert que l'algorithme personnes que vous pouvez connaître dans LinkedIn, c'est qui te suggère des personnes, oui, avait favorisé l'accès à l'emploi de certains types de personnes. Donc c'est assez dingue. Le vrai truc à mettre en lumière là-dedans, c'est que LinkedIn a le droit de faire des études sur ses utilisateurs, enfin n'importe quelle plateforme a le droit de faire des études, des graphiques, 50% en plus de X années, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser à des fins de test et d'expérimentation des gens, ça il faut le savoir. Donc l'étude là m'a permis de découvrir des termes spécifiques à LinkedIn, les profils liens forts et les profils liens faibles. Les liens faibles, c'est des profils qui sont mutuellement connectés à moins de 10 profils, donc on se suit entre nous, et à moins de 10 profils, donc on a un lien faible, et les liens forts, des gens qui sont connectés à plus de 20 personnes. Interconnecté à plus de 20
par
personnes.
Exemple un collègue de bureau, il y a des chances qu'il y ait plus de 20 relations,
voilà,
communes.
Si
donc là,
un collègue, là tu deviens un lien fort et que tu es,
okay,
interconnecté.
Okay, très clair.
L'étude en question, elle montre que LinkedIn avait pendant des années, donc là on parle de 2016 à 2019-2020, favorisé la recherche d'emploi et la proposition d'offres aux personnes ayant des petites communautés. Côté législation, ils ont du coup pas le droit, mais le résultat, hein, c'est que donc il y a 20 millions d'utilisateurs qui ont été dans ce panel d'expérimentation effectif pendant 6 ans. Sur ces 20 millions de personnes, eh ben, y en a 600 000 quand même qui ont trouvé un emploi. Donc c'est, voilà, ils ont vraiment essayé de donner de l'emploi au maximum de personnes en sortant du cadre légal.
D'accord. Et donc, voilà, pour ça, ils ont expérimenté sur les profils ayant le plus de liens faibles.
Bah, ils ont fait un test sur les deux. Mais dès qu'ils ont trouvé la faille, eh ben, ils ont fait ça sur des liens faibles.
D'accord.
Pour leur proposer de l'emploi. Donc les personnes, si je résume le cadre de l'expérimentation, les personnes avec le moins d'interconnexion avec d'autres membres LinkedIn, eh ben, étaient susceptibles de trouver un emploi plus facilement et ont trouvé un emploi plus facilement que les personnes ayant déjà une grosse communauté.
C'est assez intéressant comme info. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que les profils qui finalement jouaient le moins le jeu de la plateforme,
ouais,
étaient ceux le plus susceptibles de se faire embaucher.
C'est ça. C'est ça,
bah, c'est
le plus embauchable. Et du coup, okay, peut-être qu'il y allait plus, ces gens-là, ils vont peut-être plus pour trouver un emploi.
Ah donc, oui, peut-être, ce ne sont pas des utilisateurs.
Donc, ils ont forcé sur ces gens-là.
Ok, intéressant, voilà, intéressant. On vous met le lien vers cette expérimentation, hein, si vous voulez rentrer dans les détails de tout ça. Les amis, merci à vous. On sera là demain, 9h du mat, en direct sur Twitch, hein, si ça vous tente, ou sur Twitter Spaces, tous les matins, de 9h à 9h30, en direct. Et puis, vous écoutez cet épisode de podcast dans une application de podcast. Un énorme merci à vous. Allez, si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous, comme ça vous êtes au courant tous les jours des nouveaux épisodes. Si vous êtes sur Apple Podcast, balancez 5 étoiles avec un petit com. Pourquoi ? Bah pour nous faire plaisir, on va dire.
Voilà,
et puis, partagez cet épisode avec une pote, avec un pote.
Voilà, comme ça, il en apprendra un petit peu plus.
Exactement.
Sur les magouilles secrètes des grands pirates des réseaux sociaux.
Les amis, un grand merci à vous. On vous donne rendez-vous dès demain. Salut tout le monde.
Ciao,
belle semaine.
Salut.
Bye bye.